Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. C'est le 350e numéro de Mélomanie, avec une émission au sommaire encore très copieux et très varié. Nous allons revenir sur le concert récent de l'Orchestre National du Capitole et sur celui du chœur Les Éléments avec le Paul Light Trio samedi dernier au Théâtre de la Cité. Et puis dans l'agenda des prochains événements musicaux, en seconde partie de ce numéro, il va y avoir entre autres un concert proposé et porté par l'Orchestre Symphonique du Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse sous la direction de Christophe Millet, qui est également directeur de l'établissement toulousain. Il a lieu à la Halle aux Grains le dimanche 12 avril. Il est gratuit. Une seule œuvre au programme, le très beau mais rarement donné Stabat Mater d'Antonín Dvořák. Christophe Millet, notre invité d'honneur aujourd'hui, pour nous présenter cette pièce magistrale, ainsi que les protagonistes de ce concert. Et puis comme d'habitude, je vais co-animer ce numéro en compagnie de Serge Chauzy, rédacteur et cofondateur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Serge et moi, nous allons tout de suite revenir sur les concerts de la semaine passée. Retour arrière.
Mélomanie, retour arrière.
Bienvenue à tous les deux, merci d'avoir répondu à mon invitation. Nous allons ouvrir ce retour arrière avec le concert qu'a donné l'Orchestre National du Capitole la semaine dernière, jeudi 26 mars à la Halle aux Grains. Si celui-ci a bien été dirigé comme prévu par le chef azerbaïdjanais Fouad Ibrahimov, il y a eu en revanche une défection concernant le soliste invité, Serge.
Et oui, parce que le soliste invité n'était autre que le grand clarinettiste Martin Fröst, un grand musicien qu'on a déjà vu ici à Toulouse, mais qui, pour des raisons de santé, a dû annuler sa venue. Il n'a pas pu créer ce qui était prévu, le concerto pour clarinette et orchestre de Michael Jarrell. Et donc, le programme a dû être changé. Et au lieu de ce concerto, nous avons eu droit au Tombeau de Couperin de Maurice Ravel. Donc, c'était un concert franco-hongrois avec une majorité d'œuvres françaises et puis une œuvre de Béla Bartók. Tout a commencé avec la suite symphonique Printemps. C'est une œuvre de jeunesse de Claude Debussy et qui lui a été inspirée par le tableau Le Printemps de Sandro Botticelli. Une œuvre composée alors qu'il était en résidence à la Villa Médicis, après qu'il ait remporté le prix de Rome, ce qui était tout de même une belle récompense. Les gens de l'institution romaine ont trouvé cette musique étrange par son impressionnisme vague. Le mot impressionnisme était lâché et donc on a l'habitude de qualifier les musiques de Debussy Ravel de musique impressionniste à l'égal un peu de l'art pictural.
Oui, alors c'est amusant parce qu'a été qualifiée d'impressionniste une œuvre qui a été inspirée par un tableau de la Renaissance.
Exactement, oui, c'est absolument. Curieux. Oui, c'est amusant. On a eu droit à une exécution très soignée avec une atmosphère très poétique, des couleurs pointillistes en quelque sorte, et donc avec une sorte de lyrisme lumineux dans la deuxième partie qui est plus animée. Et puis ensuite, nous avons pu entendre Le Tombeau de Couperin de Maurice Ravel, composé entre 1914 et 1917, pour piano d'abord, et qui a été orchestré en 1919. Et cette suite est réduite à quatre mouvements, alors qu'il y en avait davantage dans l'œuvre originale pour piano. C'est un hommage à Couperin, donc François Couperin au XVIIIe siècle. Alors là, ce que pour ma part j'ai beaucoup admiré, c'est le hautbois volubile de Louis Seguin. On connaît ce grand hautboïste qui est un excellent musicien. Et là vraiment, il a donné tout ce qu'il avait avec une danse qui animait en quelque sorte les trois épisodes suivants. Là, une mélancolie avec la forlane et puis une sorte de sobre élégance qui caractérise le menuet jusqu'au rigolo. Et là, encore une fois, le hautbois est à la fête. Et puis ensuite, on a eu une œuvre alors rarissime, une œuvre de Lili Boulanger. Alors Lili Boulanger, ça a été la sœur cadette de la célèbre pédagogue Nadia Boulanger, qui composait elle aussi. Mais enfin, la grande compositrice, c'était quand même Lili.
Donc, Nadia Boulanger s'est consacrée à l'enseignement
essentiellement. À l'enseignement.
Quelle enseignante elle a été.
Ah, absolument. Mais sa petite sœur, donc, est morte à l'âge de 24 ans quand même.
Hélas.
Mais elle a pas mal composé.
Oui.
Il y a une liste d'œuvres impressionnantes. Et là, il s'agissait d'une partition étrange qui a pour titre « D'un soir triste ». Alors, cette pièce était initialement écrite pour violon, violoncelle et piano, mais alors, elle distille une tristesse d'une profondeur incroyable. C'est une œuvre crépusculaire, noire même, qui prend vers la fin la forme d'une véritable marche funèbre. C'est impressionnant, mais à coup sûr une belle découverte. Et puis, en deuxième partie, alors là, la forme et le style changent radicalement avec l'exécution de la suite du ballet de Béla Bartók, Le Mandarin Merveilleux, qui date des années 18-19. Le compositeur a transformé la partition originale pour le ballet, qui est relativement longue, en une suite pour orchestre, qui est une sorte de résumé de l'action avec un sujet à la fois cru et même franchement érotique, hein, du ballet, qui a provoqué un scandale d'ailleurs à la création, puisque le personnage principal, outre le mandarin, c'est une prostituée qui est en fait jouée par la clarinette. Le clarinettiste devient le porte-parole de la prostituée, et le quatuor à cordes, il représente trois de ses souteneurs, c'est tout de même quelque chose, et puis les clients de la prostituée sont illustrés par les cuivres, avec principalement les trombones, qui ont une partie très importante et très virtuose à jouer, avec l'arrivée de ce mandarin merveilleux qui ne peut succomber aux assauts de ses assaillants, donc qu'une fois son désir assumé. Vous voyez un peu, le sujet est osé. Et donc là, on a eu droit à une richesse de l'orchestration formidable, qui est un véritable défi pour l'orchestre et le chef. Hein. Et c'est un défi qui a été parfaitement relevé, à la fois par les musiciens et par leur chef, avec la finesse du jeu du clarinettiste David Minetti, qu'il a déjà joué de nombreuses fois, et la virtuosité des pupitres de cuivre. Ça a été un très beau moment, ça a eu un très grand succès public, et le chef a vraiment félicité chaque pupitre, chaque musicien. Il s'est déplacé, il est allé au sein des pupitres pour féliciter tous les musiciens qu'il a trouvés vraiment au top. Hein. Donc ça a été une belle exécution.
Et parmi les œuvres données par notre chère phalange toulousaine lors de ce concert du 26 mars, il y avait donc Printemps, la suite symphonique de Claude Debussy. Voici la très belle version enregistrée par Michel Plasson à la tête de l'Orchestre national du Capitole en 1988. le premier mouvement très modéré de Printemps, la suite symphonique de Claude Debussy, dans la version enregistrée par Michel Plasson avec l'Orchestre National du Capitole en 1988, sur un CD paru sous le label Erato Warner Classic. Le prochain concert de l'ensemble symphonique toulousain est programmé le jeudi 2 avril à la Halle aux Grains avec la pianiste Alexandra Dovgan. Nous allons le présenter en seconde partie d'émission. Deux jours plus tard, deux jours après ce concert, samedi 28 mars, au Théâtre de la Cité à Toulouse, se tenait le concert du chœur Les Éléments avec le trio du pianiste de jazz Paul Lai, une soirée que nous avions annoncée et présentée à Mélomanie il y a quelques semaines lors de la venue de Joël Subiette, le directeur artistique des Éléments. Le programme de ce concert reprenait celui de leur CD Waves of Light, paru fin janvier. Nous y avons assisté tous les deux, Serge, et nous nous sommes vraiment régalés. Comme l'ensemble du nombreux public présent d'ailleurs.
Oui, oui, absolument. Alors, il s'agissait d'un concert sous l'égide d'Audi Sud. Hein. Ça faisait partie de la saison d'Audi Sud. Il faut tout de même rappeler que le chœur de chambre Les Éléments a été créé en 1997 par Joël Subiette et qui fait des merveilles. C'est un chœur magnifique, hein, vraiment.
Il vient d'autrentenaire, ce chœur.
Absolument. Et puis, alors, ce qui était formidable, c'était l'association entre ce qui constitue deux mondes musicaux différents, puisque le chœur de chambre, il s'épanouit surtout dans la musique a cappella. Il fait beaucoup de musique a cappella. Alors que il était couplé ce soir-là au Paul Lai Trio, donc Paul Lai, grand pianiste de jazz, accompagné de Donald Contomanu qui était à la batterie et Clemens van der Feen à la contrebasse. Et c'est vraiment un trio magnifique et qui s'intégrait parfaitement au chœur lui-même. Toutes les musiques de ce programme étaient composées par Paul Lai. Alors, elles couvrent un domaine d'une incroyable vitalité et d'une variété impressionnante. Alors, outre les pièces originales pour chœur et trio de jazz, sur le thème de la lumière, évidemment, c'est le titre de ce programme, le pianiste a composé des musiques sur des poèmes, en particulier poèmes de Victor Hugo, d'Emily Dickinson, d'Henri David Thoreau et même de Pablo Neruda. De cette succession de pièces très diverses, on retenait l'impression d'une grande vitalité poétique. Et la toute première œuvre donc, s'appelait, c'est une coïncidence, Printemps. Ça ressemble à ce au concert dont nous venons de parler. Et c'était sur le poème éponyme de Victor Hugo que s'ouvrait cette atmosphère de rêve. Alors, variété des thèmes abordés, diversité des combinaisons, puisque la partie instrumentale, parfois, soutient les voix, parfois, elle se substitue à elles. Les arrangements réalisés par Paul Lai sur des grandes partitions classiques, intégraient aussi le programme, puisque c'était le cas de Hear My Prayer, O Lord, d'Henry Purcell, et surtout la magnifique cantate de Johann Sebastian Bach, Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, très habilement adaptée, il faut le reconnaître, par ce grand musicien qu'est Paul Lai.
Oui, extraordinaire. Faut le dire, il avait été distingué aux victoires du jazz en 2020. Il était le soliste instrumental de l'année.
Absolument. Et on a eu même droit à une œuvre du hongrois Gergi Ligeti, œuvre intitulée, je ne garantis pas la prononciation évidemment, Eizaka, qui est une œuvre composée sur un poème de Sándor Weöres. Et donc ça a donné l'occasion au chœur de chanter également dans une langue inventée par moments. C'était vraiment très novateur. Donc, pour ma part, j'ai beaucoup admiré tout au long du concert la belle entente qui se manifestait entre la direction à la fois précise et expressive de Joël Subiette et l'implication qui est parfaitement intégrée de Paul Lai et de son trio. Alors l'accueil a été enthousiaste, l'accueil du public. Ils sont revenus sur une pièce intitulée « Ode to Enchanting Light » composée par Paul Lai, donc, sur le poème de Pablo Neruda, qui figure d'ailleurs sur le disque qu'ils ont enregistré, qui est un disque magnifique, que l'on recommande à nos auditeurs.
Ah, vraiment, oui.
Donc c'est un CD qui a été enregistré chez Libellule Records.
Ce concert avait été donné deux jours auparavant au Parvis, la scène nationale de Tarbes. Et pour terminer ce retour, nous allons écouter un morceau extrait du CD, Waves of Light. Il se trouve qu'il a également pour titre ce morceau, Printemps, mais après tout, c'est de saison. printemps, morceau extrait du CD Waves of Light, enregistré par Les Éléments et le Paul Light Trio, avec qui nous concluons donc cette première partie d'émission. Petite virgule musicale avant de retrouver dans quelques secondes Serge Chosy et notre invité d'honneur Christophe Millet pour l'agenda de Mélomanie. A tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
Et nous allons commencer cette seconde partie d'émission avec Christophe Millet, notre invité d'honneur. Je rappelle que vous êtes directeur du Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. Mais aujourd'hui, nous recevons plutôt le musicien, le chef qui va diriger le concert donné par l'Orchestre Symphonique A du Conservatoire, avec des chœurs et quatre chanteurs que nous allons présenter tout à l'heure. Ce concert a lieu dimanche 12 avril à 17h à la Halle aux Grains. L'entrée est gratuite sur réservation. Une seule œuvre au programme, le Stabat Mater d'Antonin Dvorak, pièce superbe mais très rarement donnée en concert, en tout cas à Toulouse. En ce qui concerne les Stabat Mater, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont surtout ceux de Pergolèse et de Vivaldi que l'on est habitué à entendre, parfois aussi celui de Poulenc. Qu'est-ce qui explique, selon vous, Christophe, que le Stabat Mater de Dvorak soit si peu joué ?
Alors peut-être c'est une œuvre qui appartient à une culture un peu plus de l'Est de l'Europe, sans doute, oui. Moi, j'ai eu l'occasion de l'entendre, je l'ai découvert d'ailleurs, quand j'ai travaillé avec des orchestres polonais qui me proposaient leur enregistrement de l'œuvre et qui l'avaient très couramment leur répertoire. Donc j'imagine que c'est plus à l'Est qu'on donne l'œuvre. Alors c'est une œuvre monumentale, effectivement, qui fait presque une heure et demie. C'est une grande partition, découpée en 10 numéros, construite à la manière d'un opéra, où on a un très gros effectif vocal, puisqu'on a un grand chœur. En l'occurrence, là, le chœur, c'est à peu près 180 personnes. Donc c'est toute la foule qui doit être présente pour proclamer cette œuvre. Un quatuor de solistes, comme dans beaucoup d'œuvres religieuses, depuis Bach, on est habitué à avoir ce fameux quatuor soprano alto ténor basse, qui est le fondement de l'écriture à quatre parties. Et puis un orchestre symphonique conséquent, qui est le même orchestre que celui de la Symphonie du Nouveau Monde, pour simplifier les choses.
Oui, alors quand même, gros effectif, notamment pour les chœurs, ce qui peut expliquer peut-être pourquoi cette œuvre est si peu montée. Vous l'avez dit, jouer dans les pays de l'Est, plus sans doute qu'à l'ouest de l'Europe et notamment en France. Une précision tout de même, les paroles ne sont pas en tchèque, c'est en latin.
Voilà, c'est un texte qui est donc en latin, c'est un texte qui date du Moyen-Âge bien évidemment, comme la messe ou le requiem, mais ce texte-là a la particularité de présenter la passion du Christ et le calvaire du Christ vu par la mère du Christ, Stabat Mater Dolorosa, c'est la douleur de la mère au pied de la croix, et c'est à la fois la foule, des personnages qui s'associent à sa douleur et qui demandent à la soutenir et à partager sa peine au moment de la crucifixion du Christ.
C'est une œuvre de relative jeunesse, si on peut dire, concernant Dvorak. C'est celle qui va le faire connaître sur la scène mondiale. Peut-être un mot sur les circonstances de sa composition, parce qu'elles sont vraiment tragiques concernant le compositeur.
Elles sont absolument dramatiques, puisqu'il a perdu un enfant en bas âge. C'était malheureusement souvent de mise à son époque, mais il a ensuite perdu deux autres de ses enfants. Et en aucun cas, on a l'impression que cette œuvre est liée à ces événements familiaux, parce que le Stabat Mater commence effectivement dans la douleur, mais finit absolument dans la rédemption et dans la lumière. Et on a là, sans doute, l'œuvre d'un musicien qui cherche peut-être à contourner son destin.
Il y a une version originale qui, en fait, est pour piano, chœur et soliste, qui n'a jamais été exécutée du vivant de Dvorak.
Oui, c'est d'ailleurs incomplète par rapport à la version complète, parce que le Stabat, dans sa version avec orchestre, reprend l'intégralité du texte latin, et qui est découpé en strophes, bien sûr. Mais la première version, pour piano et chœur, elle n'était pas tout à fait complète. Elle était un peu oubliée, puis elle est réapparue au cours du XXe siècle.
Concernant l'orchestre, quels instruments va-t-on trouver ? C'est pas un très très gros effectif de ce point de vue.
Bon, c'est un effectif d'orchestre symphonique normal, avec tous les bois par deux, des cuivres, des timbales. Voilà, c'est l'orchestre de la Symphonie du Nouveau Monde, de beaucoup de symphonies de Dvorak, des danses slaves. Enfin, c'est un orchestre très standard, je dirais, comme Brahms, comme beaucoup de compositeurs de l'époque. Voilà.
C'est une œuvre, vous l'avez dit, qui est opératique, on va employer ce terme, et qui finalement est plus pour les voix, ou met plus en valeur les voix que l'orchestre.
Oui, c'est-à-dire que le chœur est un personnage, hein, c'est la foule, c'est l'humanité, quand il est à quatre parties, mais quelquefois c'est seulement les hommes du chœur qui chantent. Alors on peut imaginer que ce sont, pourquoi pas, des Romains présents au pied de la croix qui sont compatissants avec la Vierge. Quelquefois c'est seulement un chœur de femmes, c'est un peu comme si des anges nous parlaient depuis le paradis. Enfin, il utilise le chœur d'une façon globale qui est extrêmement intéressante. Et puis, il y a aussi des voix solistes, bien sûr. Et là, où, c'est plutôt des discours qui sont personnels. Quand la basse chante son air, quand le ténor chante son air, ou quand le quatuor chante un quatuor, on a l'impression que là, ce sont des choses plus individuelles qui viennent en soutien à la douleur de la mère.
Je crois que vous l'avez déjà dirigé au moins une fois.
Oui, je l'ai dirigé en 2009, cette œuvre-là, oui. Et j'en gardais un grand souvenir. J'ai cherché une œuvre qui pouvait fédérer au sein d'un conservatoire, fédérer seulement un orchestre qui joue très bien, puisque c'est l'orchestre symphonique A, donc des grands élèves du conservatoire, donc des élèves qui sont en fin de parcours au conservatoire, qui sont dans un parcours pré-professionnel, qui sont presque professionnels. Et puis, j'ai souhaité associer donc des chœurs de la maison, bien évidemment. Hein. Il y a une bonne centaine de choristes qui sont de la maison, mais on est allé, dans le cadre de notre partenariat et de notre souhait de partager avec d'autres structures, on est allé s'associer avec le chœur du conservatoire de l'Aveyron, donc des voisins, mais un peu lointains quand même, et puis un chœur bien connu sur la place toulousaine qui est le chœur Nota Bene. Voilà, ça grâce à deux chefs de chœur qui militent beaucoup pour le chant choral dans la région toulousaine, qui sont Delphine Armand et Rolandas Muleka.
On va présenter toutes ces force vive du conservatoire à celles qui se sont greffées autour pour cet événement un peu plus en détail tout à l'heure. Quelles sont les difficultés propres à cette œuvre, que ce soit pour les voix ou pour l'orchestre?
Alors, c'est une œuvre qui est très lyrique. Bien évidemment, les voix sont extrêmement sollicitées. Les voix solistes pour la basse, par exemple, l'ambitus est énorme. Il y a plus de 2 octaves d'ambitus. Donc, on a vraiment besoin de chanteurs qui sont les mêmes que ceux qui chantent les grands opéras de Verdi de l'époque, par exemple. On a cette même typologie vocale. Et pour le chœur, l'important, c'est la cohésion, bien sûr, puisque le chœur, finalement, parle souvent d'une seule voix, comme je vous l'ai dit. Donc, le faire ensemble, la justesse, le travail sur la diction, la prosodie, la prononciation font partie de l'engagement du chœur.
Vous allez nous présenter donc tous les acteurs du concert du dimanche 12 avril dans quelques instants, mais avant cela nous allons écouter un premier extrait du Stabat Mater d'Antonin Dvorak. Il s'agit du deuxième chœur et Yamater fonce Amoris dans une version de la Staatskapelle de Dresde. Eia Mater, Fons Amoris, deuxième chœur du Stabat Mater d'Antonín Dvořák dans une version de la Staatskapelle de Dresde. Ce qui nous amène à la présentation des protagonistes du concert du dimanche 12 avril. Je rappelle encore qu'il a lieu à 17h à la Halle au Grain et que l'entrée est gratuite sur réservation. Commençons par cet orchestre symphonique A du Conservatoire de Toulouse. Bon, vous nous avez expliqué, en fait, ce sont les grands élèves, ceux qui sont vraiment sur la fin de leur parcours d'étudiant.
Exactement,
qui vont voilà, y participer.
Ceux qui vont, pour certains, aller compléter leurs études en France ou à l'étranger, dans les conservatoires supérieurs. Ceux qui entrent déjà dans la vie active, parce qu'ils vont trouver du travail souvent qui va leur être proposé régulièrement, dans certains orchestres, par exemple. Et puis, pour les élèves, c'est vraiment l'aboutissement des études, du parcours, que d'être dans cet orchestre. C'est presque un honneur que d'y arriver. Quoi, voilà.
Vous donc, faites plusieurs concerts avec eux chaque année.
Oui, exactement. Oui. En général, il y a 2 à 3 sessions par an, plutôt 2 en général, avec des programmes différents, des solistes différents. Et l'orchestre travaille comme un orchestre professionnel en session, c'est-à-dire qu'on ne répète pas chaque semaine à la même heure, mais que le travail va, par exemple, être très intensif à partir de la semaine prochaine, pendant toute la semaine qui précède le concert. On travaille tous les jours. Et en amont de ce travail, qu'on appelle en tutti, les musiciens travaillent par section, les cordes, les vents, etc. Et précédemment à cela, il y a encore un travail par pupitre, les violons, les altos, les violoncelles, etc., avec des musiciens qui sont en général des solistes de l'orchestre du Capitole, qui viennent transmettre leur savoir, leurs connaissances, et qui viennent passer à nos élèves leur expérience de la musique, de cette musique, et de la musique, et de la pratique de l'orchestre symphonique en particulier.
Voilà pour l'orchestre. Les chœurs maintenant, alors ceux qui se produisent aux côtés de l'orchestre, sous votre direction, d'abord, qui les prépare et d'où nous viennent-ils? Il y a l'ensemble vocal du Conservatoire de Toulouse et le chœur du Conservatoire de l'Aveyron qui vont être préparés par Rolandas Moulaïti.
Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on a 2 chefs de chœur et
chaque
chef de chœur patronne 2 chœurs, en fait. Hein. Un à l'intérieur du conservatoire et puis un autre dans leurs activités extérieures, parce que comme ce sont des gens extrêmement expérimentés et de talent, ben on les sollicite forcément pour avoir une activité artistique et puis partager un peu leur savoir-faire à l'extérieur de la maison.
Comment s'est fait le partenariat avec le chœur du Conservatoire de l'Aveyron? Pourquoi ce chœur précisément?
Non, parce que Rolandas Muleka le dirige, tout simplement.
Voilà, c'est une bonne raison. C'est une bonne raison, donc il les connaît bien, il sait aussi de quoi ils sont capables.
Il les connaît bien, effectivement. Et pour moi, c'était l'occasion aussi, dans la préparation du travail, d'aller rencontrer d'abord chaque chœur séparément, hein, pour nous présenter, pour donner des indications, pour diriger, pour montrer un peu quel chemin on avait à faire. Et puis, depuis la semaine dernière, j'en ai déjà réuni 3 sur les 4, et puis la semaine prochaine, les 4 seront avec nous.
Donc les 2 autres, citons-les. Alors il y a le chœur Voci Nobili qui lui est aussi relié au conservatoire de Toulouse.
C'est un ensemble du conservatoire.
Voilà. Et le chœur Nota Bene qui lui est séparé mais qui est dirigé par Delphine Armand qui enseigne le chant choral au conservatoire.
Exactement, exactement.
Et donc avec Rolandas Muleika, ils se sont partagés le travail. Maintenant, les 4 chanteurs solistes, qui sont les 4 que vous avez invités.
Alors là, on a formé une équipe en accord avec les professeurs, une équipe mixte, je dirais, à la fois avec 2 grands élèves en fin de parcours chez nous et 2 professionnels. Donc Camille Aparicio et Arthur Perrault sont des élèves en fin de parcours de la maison qui vont passer leur diplôme. Et donc, on a voulu leur donner leur chance de se produire, puisqu'ils en avaient le talent, de se produire dans un oratorio de cette taille. Et la voix d'alto sera celle de Christelle Gouffet, qui est une mezzo-soprano qui, je crois, est déjà bien connu sur la place toulousaine.
Oui, oui.
Et la partie de basse sera tenue par Julien Véronèse, qui est un artiste lyrique que l'on connaît bien, mais qui est aussi, lui, enseignant au conservatoire. Donc voilà, donc une équipe tout à fait bigarrée, où les plus anciens, les plus aguerris, auront à cœur de passer aux plus jeunes et aux plus débutants.
Et tous sont estampillés conservatoire de Toulouse. Camille Aparicio, soprano, et Arthur Perrault, ténor, sont encore élèves.
Tout à fait.
Aujourd'hui, Christelle Gouffet est une ancienne élève, l'alto, donc. Et puis Julien Véronèse, ben lui, il enseigne.
Exactement, exactement.
Donc ce sont vraiment, je le répète, hein, les forces vives du conservatoire qui sont sur le pont pour ce concert. Vous en êtes où des répétitions là aujourd'hui?
Alors je dirais que la grande semaine de travail, voilà, on sort d'un week-end de la semaine dernière où samedi dimanche on a travaillé beaucoup l'orchestre. Cette semaine, demain c'est à nouveau avec les chœurs. La semaine prochaine on va enfin réunir tout le plateau, chœurs, solistes et orchestre pour la dernière mise en place. Mais c'est comme un puzzle, c'est-à-dire qu'une œuvre aussi imposante, elle se construit bien en amont et chacun travaille sa partie bien en amont pour être le plus solide possible au moment où on construit définitivement la pièce.
Et donc le raccord avec tous les acteurs de ce concert, les chœurs, les quatre chanteurs et l'orchestre, va se faire le vendredi, c'est ça?
À partir de la semaine prochaine, oui. Les solistes dès mercredi et après vendredi, samedi, avec tout l'effectif, bien sûr.
Et tout l'effectif à la Lograin même?
Non, on répète non. À Saint-Pierre-des-Cuisines.
Eh oui, vous ne pouvez pas voir là à l'avant.
Dans une configuration assez particulière, c'est-à-dire que l'orchestre sera tourné dos au gradin et les chœurs seront dans les gradins. Donc pas de public.
Pas de public, ce qui change un petit peu tout de même l'acoustique d'un lieu.
Hein. Exactement.
Ça, c'est une des difficultés souvent lorsqu'on répète pas au même endroit, évidemment avec une salle vide, avant un grand concert.
Enfin, on fait quand même une générale le dimanche matin sur place. On a largement le temps de se poser, de s'installer et de vérifier les choses et de remédier à certains problèmes s'il y en a.
En général, ça nécessite beaucoup d'ajustements ou il peut y avoir des mauvaises surprises de dernière minute.
Pas forcément, parce que quand on joue dans un lieu qui n'est pas adapté à la musique ou au concert, ça peut arriver, il faut être vigilant. Là, c'est la Lograin, où la salle est conçue pour cela. Il y a une équipe de régie qui est extrêmement professionnelle, donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien.
Alors, je l'ai dit, l'entrée est gratuite pour ce concert.
Tout à fait.
À la Lograin, il y a plus de 2000 places, donc a priori, il y aura de la place pour tout le monde. Mais il vaut mieux tout de même réserver ou on peut arriver au dernier moment.
La seule solution aujourd'hui, c'est d'arriver au dernier moment parce que c'est complet. Donc, il faut ne pas hésiter à arriver au dernier moment parce que beaucoup de gens nous redonnent des places parce qu'ils ne peuvent pas venir ou on a pris plus que ce dont ils avaient besoin. Donc, on a toujours des places à donner au dernier moment. Donc, surtout, n'hésitez pas, même si sur le site, la réservation est marquée complète, il y aura des places jusqu'à la dernière minute.
Voici un second extrait du Stabat Mater d'Antonin Dvorak, Fac ut portem Christi mortem, un air pour soprano et alto, et c'est encore une version de la Staatskapelle de Dresde. Thank you. fac ut portem Christi mortem, un air pour soprano et alto, extrait du Stabat Mater d'Antonin Dvorak, dans une version de la Staatskapelle Dresden. Je rappelle encore une fois que cette œuvre magnifique est donnée dimanche 12 avril à 17h à la Halle au Grain par l'Orchestre Symphonique A et l'ensemble vocal du Conservatoire de Toulouse, le chœur du Conservatoire de l'Aveyron, le chœur Voci Nobili du Conservatoire de Toulouse encore une fois et le chœur Nota Bene, ainsi que les chanteurs Camilla Apparicio, Christelle Gouffet, Arthur Perrault et Julien Véronèse. Tous sont dirigés par Christophe Millet. L'entrée est gratuite sur réservation. Pour cela, il faut vous connecter au site www.conservatoire.toulouse.fr. Alors, c'est annoncé complet, mais il y aura certainement des places qui vont se libérer. Donc, n'hésitez pas à y aller au dernier moment. D'ici le 12 avril, il y a d'autres concerts. Et ce, dès cette semaine, je vous avais parlé en première partie d'émission du rendez-vous avec l'Orchestre National du Capitole, qui se produit à la Halle au Grain ce jeudi 2 avril à 20h, sous la direction de Tarmo Peltokoski. Là encore, il y a un changement concernant la soliste initialement invitée, Serge. Cela dit, celui-ci est annoncé depuis un bon moment tout de même.
Oui, absolument. Nous devions recevoir Beatrice Rana, qui n'a pas pu venir donc, pour des raisons de santé, elle aussi. Et donc, nous entendrons une jeune pianiste donc russe. Hein. Ça tombe bien, puisque tout le programme est un programme russe que nous entendrons en deux parties. La pianiste Alexandra Dovgan est née en 2007, donc elle est toute jeune.
Elle a 19 ans, hein, à peine. Hein.
Toute jeune, hein. Elle s'est révélée lorsqu'elle a réussi des sélections très compétitives pour rejoindre l'école de musique centrale académique du Conservatoire d'État de Moscou. Et elle poursuit actuellement ses études à Malaga.
Donc, oui, je crois qu'elle avait été repérée toute jeune par Grigori Sokolov.
Exactement. Il lui a même classe, donné des conseils. Donc, c'est vraiment un développement musical qui est qualifié de talent exceptionnellement harmonieux par Sokolov lui-même. Elle donnera en soliste la rhapsodie sur un thème de Paganini, de Sergei Rachmaninov, qui est donc sur un thème qui a été très utilisé par de nombreux musiciens, puisque avant Rachmaninov, Johannes Brahms, Franz Liszt avaient déjà utilisé ce thème fameux du Caprice pour violon seul numéro 24 de Niccolo Paganini. Là, nous entendrons donc cette jeune pianiste comme soliste dans cette œuvre qui, bien qu'elle soit exécutée d'un seul tenant, a tout à fait la forme d'un concerto avec trois sections qui correspondent à peu près aux trois mouvements d'un concerto romantique. Et donc, lors de cette soirée du 2 avril, Tarmo Peltokoski dirigera une œuvre d'un répertoire qu'il affectionne, qui est la symphonie numéro 10 de Dmitri Shostakovich, qui était également le compositeur favori de Touhan Sokiev, hein, on s'en souvient. Cette symphonie numéro 10 a été composée après la mort de Staline, qui est mort donc le 5 mars 1953, le même jour que Prokofiev, ce qui est incroyable. C'est trois mois après la mort de Staline que Dmitri Shostakovich entame la composition de cette symphonie numéro 10. C'est une œuvre vraiment impressionnante entre tragédie, ironie, rébellion, donc, et c'est là, vraiment, elle marque la fin de l'ère de la terreur stalinienne, la renaissance d'un artiste enfin libre d'écrire ce qu'il souhaitait. Donc nous aurons ces deux œuvres au programme du concert du 2 avril.
Oui, cette 10e symphonie de Shostakovich est une des plus connues des 15 hein, qu'il a composées, avec peut-être la 5e aussi. Et on l'a déjà entendue à la Halle au Grain, mais dirigée par Touhan Sokiev. Donc là, on va pouvoir la découvrir dirigée par Tarmo Peltokoski. En attendant, nous allons pouvoir écouter Alexandra Dovgan dans une interprétation de la fameuse rhapsodie sur un thème de Paganini de Serge Rachmaninov. Elle est accompagnée ici par l'Orchestre National d'Espagne, dirigée par Cornelius Meister, un chef que l'on connaît bien à Toulouse. Thank you. La Rhapsodie, très belle Rhapsodie, sur un thème de Paganini de Serge Rachmaninoff, joué par Alexandra Dovgan, accompagnée ici par l'Orchestre National d'Espagne sous la direction de Cornelius Meister. Cette jeune pianiste russe, nous l'avions découverte en septembre dernier à Piano Jacobin, et elle revient avec l'Orchestre National du Capitole, dirigé par Tarmo Peltokoski, ce jeudi 2 avril à 20h à la Halle aux Grains. Mardi prochain, le 7 avril, également à 20h à la Halle aux Grains, le cycle des grands interprètes accueille l'Insula Orchestra et le chœur Accentus, dirigé par leur fondatrice, Laurence Equilbet. Ils vont donner une des plus célèbres œuvres sacrées du répertoire, la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach. Un autre chœur officie lors de ce concert, ainsi que quatre chanteurs solistes que Serge va se faire un plaisir de nous présenter.
Et oui, l'autre chœur, c'est le Monteverdi Choir.
Rien que ça.
Tout de même, grand chœur célèbre, hein, britannique. Donc, il se joindra au chœur Accentus qui a été créé par Laurence Equilbet elle-même. Là, nous aurons évidemment une œuvre emblématique, la messe en si de Bach, une des dernières œuvres d'ailleurs de Johann Sébastien Bach, puisqu'il l'a... Il a d'abord composé des extraits.
En 1733, oui, enfin 1730-1733.
Voilà, et puis il est revenu.
Au soir de sa vie, hein, parce que c'est complètement, 1748-1749, oui, oui. Il est mort en 1750.
Oui, oui,
c'est
oui.
Un peu une œuvre testament, on peut le dire.
Absolument. Et donc, il y aura également quatre chanteurs solistes qui sont Nuria Ria, soprano, Anna Lucia Richter, mezzo-soprano, Werner Gura, ténor, et Gerrit Ilienberg, basse, qui chanteront. Alors, quelquefois, il y a un soliste de plus, là.
Oui, parfois ils sont cinq.
Parfois ils sont cinq, là, ils sont quatre, donc. Alors, l'œuvre de Bach, qui termine un peu sa carrière, c'est le maximum de sa contribution à la musique sacrée.
C'est la quintessence de son génie, notamment dans le domaine sacré.
Et c'est un exemple unique. Et donc, c'est un grand événement que cette musique, jouée sur instrument d'époque, hein, rappelons-le, et dirigé par Laurence Equilbet, que l'on est heureux de revoir de nouveau à Toulouse.
On va écouter un extrait de cette messe en si mineur, le Sanctus, dans une version de l'ensemble Pygmalion, dirigé par Raphaël Pichon.
Yeah.
le Sanctus de cette merveilleuse messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach dans la version enregistrée par l'ensemble Pygmalion dirigé par son fondateur Raphaël Pichon. Ce chef-d'œuvre est donc donné le mardi 7 avril à 20h à la Halle au Grain par l'Insula Orchestra, le chœur Accentus, le Monteverdi Choir et quatre chanteurs solistes sous la direction de Laurence Equilbet. C'est un concert proposé par le cycle des grands interprètes. Je voulais que nous annoncions aussi les concerts mensuels de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Pour ce mois d'avril, ils ont lieu ces mercredis 1er et jeudi 2 à l'escale de Tournefeuille, puis les lundis 13 et mardi 14 à Saint-Pierre-des-Cuisines. Le programme est un hommage à Beethoven l'incomparable, Serge.
Exactement, c'est d'ailleurs le titre de cette série de concerts, avec trois œuvres, alors très différentes, puisqu'il y a tout d'abord le Quatuor à cordes opus 18 numéro 4, en version orchestre de chambre évidemment, la lettre à Élise, la fameuse lettre à Élise, et puis la cinquième symphonie en ut mineur, rien moins que pam 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 pam, mais dans une version pour orchestre à cordes, là aussi.
Sûr. Alors voilà. Ce concert sera placé sous la direction de la violoniste espagnole Lina Tour Bonnet, qui collabore depuis déjà quelques années assez régulièrement avec l'Orchestre de Chambre de Toulouse, au point qu'ils ont d'ailleurs enregistré un CD ensemble, un CD Mendelssohn essentiellement. Voici un extrait du quatrième mouvement Allegro de la symphonie numéro 5 en ut mineur de Ludwig van Beethoven, interprété par l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Le quatrième mouvement Allegro de la symphonie numéro 5 en ut mineur de Beethoven, interprété par les musiciens de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, qui sont donc en concert les mercredis 1er et jeudi 2 avril à l'escale de Tournefeuille, puis les lundis 13 et mardi 14 à Saint-Pierre-des-Cuisines avec la violoniste Lina Tour-Bonnet. Tous commencent à 20h30 et le programme est entièrement dédié à Beethoven l'incomparable. La billetterie est en ligne à l'adresse www.orchestredechambredetoulouse.fr. En ce qui concerne le concert de l'Orchestre National du Capitole, ce jeudi 2 avril à 20h à la Halle au Grain, sous la direction de Tarmo Peltokovski et avec la pianiste Alexandra Dovgan, vous pouvez acheter et réserver vos places en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Pour assister à la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach, donnée mardi 7 avril à 20h à la Halle au Grain, dans le cadre de la 40e saison du cycle des grands interprètes, la billetterie est en ligne à l'adresse www.grandsinterprètes.fr. Et enfin, pour découvrir en concert le très beau Stabat Mater d'Antonin Dvorak, dimanche 12 avril à 17h à la Halle au Grain, sous la direction de notre invité Christophe Millet, je vous invite à vous connecter au site du Conservatoire de Toulouse www.conservatoire.toulouse.fr pour vous renseigner, sachant qu'il affiche déjà complet, mais qu'il est possible de se présenter au dernier moment au guichet. Il devrait y avoir des places disponibles, l'entrée étant gratuite. Merci à Christophe Millet, notre invité du jour, et à Serge Chosy, qui a co-animé l'émission avec moi. Merci aussi à Jonathan Botello, le réalisateur de ce numéro, dont le podcast est téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci bien sûr à tous ceux et celles qui nous ont écoutés aujourd'hui. Très bonne semaine musicale à tous.